20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est mercredi que sort en salle l'un des films les plus attendus des mélomanes, Boléro d'Anne Fontaine, un film particulièrement touchant qui nous fait entrer dans l'intimité de Ravel, alors qu'il s'apprête à composer ce qui deviendra l'une des œuvres les plus célèbres et plus populaires du répertoire classique. Un homme alors affaibli par les premiers troubles de sa maladie neurologique et un homme en proie au doute. C'est Raphaël Personnaz qui incarne ici le compositeur, Raphaël Personnaz qui sera avec Anne Fontaine à notre micro tout à l'heure pour en parler. Avant cela, notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale avec quelques rendez-vous à noter sur vos agendas. Nicolas Schepp-Snyder poursuit son exploration de l'œuvre de Mahler avec son Orchestre National de Lyon. C'est la 9e symphonie qu'il dirigera cette semaine, l'ultime symphonie du compositeur autrichien, une partition monumentale, bouleversante, véritable chant d'adieu du compositeur. Rendez-vous donc jeudi à 20h et samedi à 18h à l'Auditorium de Lyon et sous les micros de Radio Classique, un concert que vous pourrez revivre samedi 16 mars à 20h sur notre antenne. Autre œuvre absolument bouleversante, Orphée Eurydice. C'est dans la version de Berlioz et dans la si poétique mise en scène d'Aurélien Bory, créée en 2018 à l'Opéra Comique, que cet Orphée Eurydice sera donné de jeudi à samedi à l'Opéra Royal de Versailles avec Marie-Claude Chappuis en Orphée, Mirella Hagen en Eurydice, entourée d'une troupe de chanteurs et de circassiens et avec dans la fosse l'excellent Collegium 1704 sous la direction de son chef Václav Lux. Dans un genre beaucoup plus léger, rendez-vous dès vendredi au Théâtre de l'Athénée à Paris. À l'affiche, une comédie musicale de Maurice Yvain qui compte parmi les chefs-d'œuvre du genre. Son titre, Gosse de riche, un ouvrage plein de fantaisie, une comédie sociale et un vaudeville à la fois dans la pure tradition des années 20, des années folles. Alors c'est à la formidable compagnie des frivolités parisiennes, qui fait référence dans ce répertoire, que l'on doit cette piquante production mise en scène par Pascal Néron, avec Amélie Tati, Philippe Brocard, Laura Neumann ou encore Marie Lenormand dans la distribution. Un spectacle qui devrait faire du bien à savourer au Théâtre de l'Athénée à Paris jusqu'au 17 mars. L'ouverture de Gosse de riche de Maurice Yvain, jouée ici par Benjamin Lévy à la tête de son orchestre de Cannes. Gosse de riche à l'affiche du 8 au 17 mars au Théâtre de l'Athénée, un spectacle de la compagnie des frivolités parisiennes.
Laure Maison sur Radio Classique.
Maurice Yvain, Gosse de riche, c'est le Paris des années folles, une époque dans laquelle nous plonge la réalisatrice Anne Fontaine avec son nouveau film Boléro à découvrir en salle des mercredis. Un film qui met en scène Ravel donc à l'époque de la composition de son Boléro vers 1928 avec quelques flashbacks sur sa jeunesse, sur ses échecs au prix de Rome et surtout sur sa relation avec sa mère. Anne Fontaine et Raphaël Personnaz qui incarnent Ravel dans ce film et que j'ai pu rencontrer il y a quelques jours à l'Opéra Comique où certaines scènes d'ailleurs ont été tournées, nous racontent ce soir leur perception de ce compositeur et de cette œuvre, de ce Boléro qui compte parmi les plus populaires du répertoire classique et dont le générique du film souligne d'ailleurs avec beaucoup de fantaisie toute l'universalité, l'intemporalité.
Thank you. Alors, Boléro, c'est vraiment une œuvre dont on ne peut pas se défaire quand on l'écoute une première fois. Elle vous rentre dans votre corps, dans votre cœur. Elle est vraiment assez facétieuse parce qu'elle commence de manière très légère, très douce. Puis plus il y a ce crescendo qui est comme un crescendo existentiel, physique, érotique. Et puis ça finit par la destruction. Donc c'est comme une métaphore de l'existence d'une manière évidemment très ramassée. Et moi, je viens de la danse et au fond, ça a généré de la danse organique, sublime chez Béjart et chez plein d'autres d'ailleurs. Et donc la modernité de cette œuvre, c'est ça qui m'a conduite à peut-être partir de... Aussi parce que c'est la connaissance de Ravel la plus populaire et que ça permet de découvrir d'autres musiques qui sont merveilleuses comme bien sûr la pavane, le concerto... plein d'autres œuvres qu'on connaît moins, mais qui sont tout aussi belles.
Et puis cela permet de mettre en avant un créateur vers la fin de sa vie, face à sa fragilité, face à sa vulnérabilité. Qu'est-ce que vous avez découvert sur l'homme en travaillant justement sur ce film ?
J'ai découvert d'abord son incroyable modestie et cette façon finalement de s'inspirer des sons du réel, que ce soit de l'usine, que ce soit des réveils, tous ces sons auxquels on ne fait pas forcément nous attention, de vivre de l'intérieur, comment ça va l'inspirer pour un ballet qu'il n'arrive pas finalement à composer. Et je trouve que de le prendre à un moment où il est en panne d'inspiration, c'est très intéressant parce que l'être humain, comme vous avez dit, la douceur, la fragilité et l'auto-ironie aussi qu'il a, l'auto-dérision, en font un personnage... très moderne, je trouve, de gauche, comme on dit. Il était altruiste et entièrement empathique.
Alors, Ravel, personnage, comment l'avez-vous travaillé, Ravel? Vous ne lui ressemblez pas comme ça quand on vous voit, vous êtes beaucoup plus grand que lui. Et pourtant, quand vous l'incarnez, on est saisi par votre engagement. Comment est-ce que ce personnage, vous l'avez nourri en vous?
C'est d'abord par la pratique du piano. J'ai rencontré Alexandre Tarot qui m'a montré comment il jouait lui-même du Ravel. Et là, j'ai compris le chemin que j'avais à parcourir pour essayer de m'en approcher un petit peu. Donc, il y a eu la pratique du piano pendant presque un an, la direction d'orchestre aussi, une forme de sécheresse corporelle. Donc, Anne m'a fait perdre 8...
Tout
est ta faute, ouais, plein de kilos, plein de choses. De superflu pour avoir une forme de fragilité, quelque chose de plus gracieux aussi dans le corps. Donc en fait, au début, ça s'est pas passé de manière trop psychologisante. Il y avait aussi l'attention au son. Être en permanence attentif au son du réel, comme disait Anne, d'avoir cette conscience-là. Ce qui crée chez soi, en fait... on est là et on n'est pas là. Moi, j'avais le sentiment que Ravel était un personnage un petit peu comme ça, qu'il était présent dans les situations et en même temps dans son monde ailleurs, dans un monde abstrait, dans un monde musical, et que toute sa personnalité, finalement, il la cache par son habillement, par son ironie, son auto-ironie sur sa vision des choses, mais et qu'en même temps, toute sa personnalité se retrouve uniquement dans sa musique. Une des façons aussi d'appréhender le personnage, et qui a été très marquante, c'est la visite de sa maison de Montfort-l'Amaury, dans laquelle on a eu la chance de tourner pendant 3 semaines. Et c'est vrai que quand vous entrez dans ce lieu, qui n'a pas bougé depuis un siècle, vous avez l'impression de faire un saut dans le temps, de retrouver exactement les bibelots qu'il avait, les peignes, tout est à sa place. Tout est resté à sa place. Et nous, on a eu la chance de tourner là. Les scènes où Ravel est en train d'imaginer le boléro, ce qu'il pourrait être, on les a tournées dans le cabinet de musique, sur le piano de Ravel, où il l'a réellement fait. Et ça, je vous avoue que c'est un luxe d'avoir cette opportunité-là pendant un tournage qui est irremplaçable. Enfin, c'est irréel, en fait, de se retrouver à l'endroit précis où il était. Rien n'a bougé. Et de se dire, ben voilà, il a sur le même clavier, il a posé ses doigts, et il a commencé quelque chose qui devait ressembler au boléro. Il y a eu aussi un autre travail, mais ça qui s'est accompli sur le tournage, il y a le regard d'Anne sur l'acteur que je suis et les chemins où elle m'a emmené sans jamais me brusquer, mais toujours avec une délicatesse folle. Et j'ai adoré emprunter ces chemins. Et avec mes camarades de jeu, avec Emmanuel Devos, avec Jeanne Balibar, avec Doria Tillier, avec Vincent Pérez, avec Sophie Guimain, il y avait dans chacune des relations qu'entretenait Ravel avec ses personnages haut en couleur, il y avait de la fantaisie, de l'humour, de l'amour et une profondeur dans chacune de ces relations qui était dans le scénario et qu'il fallait retrouver sur le plateau. Et ça n'a pas été difficile à retrouver avec ces artistes-là. Quand vous arrivez sur un plateau, vous êtes dirigé par Anne et vous avez toutes ces actrices, ces acteurs, ouais, vous êtes dans un environnement qui fait que vous avez envie de plonger le plus possible dans un autre monde. Ce qui est fascinant aussi dans ce film, moi j'ai l'impression, en l'ayant vu après comme simple spectateur, c'est que c'est une véritable plongée en 1925, 1926, 27, dans ces années folles-là, et que moi c'est une période fascinante, extrêmement riche.
C'est vrai que ce film, le Boléro, c'est une plongée dans les années folles, Anne Fontaine. En même temps, le Boléro, comme la valse d'ailleurs, un ballet que Ravel a composé quelques années avant, donne une image assez violente de cette fin de période, de cette fin d'insouciance que la Grande Guerre a provoquée, enfin, cette douleur que l'on perçoit chez Ravel. Vous l'avez senti aussi, vous y avez pensé en réalisant ce film, Anne Fontaine, justement cette période qui marque la fin d'une certaine insouciance que Ravel traduit dans le Boléro ou dans la valse.
Oui, puisque la valse et le boléro ont le même type de fin, une fin où c'est la mort qui l'emporte, la destruction. Et évidemment, on ne peut pas traiter la vie de Ravel en entier, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un avant et après la guerre. Nous, on traite la guerre de manière un peu métaphorique, assez courte, mais il y a vraiment le fait que il a voulu s'engager pendant la guerre et qu'il n'a pas pu être à l'aviation. On l'a mis derrière aux choses faciles, aux ambulances. Et encore, il paraît que ses jambes étaient trop petites pour accéder aux pédales, tellement il était plus petit que Raphaël. Raphaël est menu et donc a équilibré la sensation qu'on a du personnage par le côté malingre. Mais oui, il y a une violence dans cette musique et quelque chose de fatal. Et c'est ça la force aussi de l'universalité de ces morceaux de musique. C'est qu'il y a vraiment comme une sorte de, en miniature, si on peut dire, une vie qui naît et la mort qui est au bout. La mort de sa mère aussi, évidemment, a créé une violence inouïe puisqu'il n'a pas travaillé pendant 3 ans. Après la mort de sa mère, j'ai pas pu traiter, et je voulais pas traiter comme des biopics qui essayent de tout mettre et qui mettent finalement que des choses de manière descriptive. J'ai préféré qu'on soit à l'intérieur de lui sur ce moment qui est la dernière partie de son existence, parce que ce que je trouvais aussi très intéressant, c'est l'aspect neurologique d'une certaine façon qui permet de faire des juxtapositions entre des périodes différentes, des sensations, des sons, comme si aussi cette maladie était une ouverture vers quelque chose de plus libre et de plus anxiogène aussi, parce que c'était un homme du contrôle, un contrôle freak absolu. Il voulait que les choses soient parfaites. Il a dit au personnage d'Ida Rubinstein que de montrer une œuvre non accomplie, non finie, c'était comme de recevoir des invités en chaussettes, ce qui est de l'esprit, mais qui prouve bien ça. Et donc j'ai trouvé intéressant de construire, parallèlement au boléro, le fait qu'il commençait à avoir des trous d'air, parce que ça donne à son côté humain et aussi à... Il se découvre plus d'une certaine façon, parce que c'est un être qui était très protégé par son uniforme, son chic, son côté dandy. Et au fond, il était très solitaire, parce que cette maison qui est incroyable, qui est donc la vraie maison dans laquelle on a tourné à Montfort-l'Amaury, est une maison de poupée, comme une maison d'un enfant jamais grandi. Et c'est ça qui ressort dans l'empathie qu'on a pour le personnage. Moi, je dis que c'est un peu comme je ne sais pas si vous connaissez ce film, un cousin du personnage de Daniel Auteuil dans Un cœur en hiver, où il était luthier. D'ailleurs, il était aussi lié à la musique. Et c'est une nouvelle de Lermontov. Et c'est un homme qui ne peut pas sortir ses sentiments comme tout le monde, si on peut dire. Et le fait qu'il soit emprisonné dans quelque chose où c'est la musique qui est son soleil et sa prison, rend, je trouve, captivant l'aventure de ces dernières années de sa vie.
Il y a dans la musique de Ravel cette sensualité, voire cet érotisme, qui est lié à son rapport aussi avec les femmes. Alors dans ce film, Anne Fontaine, vous avez un casting très féminin. On retrouvera Ravel entouré de toutes ces femmes qui l'ont accompagné, que ce soit Missy Assert, Ida Rubinstein, qui lui a commandé le boléro, mais aussi sa mère, que l'on voit en flashback, sa gouvernante, Marguerite Long. Vous avez imaginé qu'il fréquentait, d'ailleurs, je crois que c'est avéré, les maisons closes, mais on ne connaît pas ses relations avec les femmes.
Alors, il fréquentait effectivement les maisons closes parce qu'il était très insomniaque et donc il avait trouvé une sorte de refuge chez ces femmes, chez ces prostituées. On ne sait pas ce qu'il y faisait exactement, donc je ne peux pas le dire, mais moi j'ai imaginé des scènes où l'érotisme était un érotisme oblique, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il faisait essayer des gants à une prostituée pour entendre le crissement du son des gants sur la peau. Une autre, il danse avec et il n'y a pas de musique, dit-elle. Mais il y a toujours de la musique, on n'entend quasiment rien, et comme une musique dans la tête. J'ai rendu assez romanesque, évidemment, la relation avec Missy Assert, qui était cette femme brillante qui avait trois maris. Et on sent qu'elle a une sorte de passion, pas secrète, mais une passion sans espoir que ça se convertisse dans quelque chose de plus classique, genre un mariage. Mais ils ont une sorte de solitude en commun, un romantisme décalé. Bon, ça, je l'ai évidemment un peu imaginé, parce qu'il y avait une relation, il a composé pour elle. J'ai aimé cet amour par procuration, qui est un peu l'état du metteur en scène face à un film. Et l'autre personnage de Marguerite Long, c'est sa complice, et en même temps, elle est maternante, puisqu'elle lui dit qu'il ne va jamais avoir de succès avec cette litanie qu'il répète au piano, qui est la jeunesse du boléro. Et c'est un personnage assez amusant, je pense. Et puis Ida Rubinstein, qui est celle qui le stimule, qui l'énerve en même temps, et au fond qui a une affection pour lui, et il reconnaît son talent. Donc c'est de l'érotisme, moi j'appelle ça oblique, c'est un peu bizarre comme mot, mais c'est décalé, c'est pas littéral. Et moi c'est ce qui m'a plu chez lui. Ce qui me plaît chez lui, c'est que c'est pas un homme normal. Et ça, heureusement.
L'un des défis, quand on joue le rôle d'un musicien, Raphaël Personnaz, ce sont les scènes de musique, puisqu'on vous voit jouer du piano, on vous voit vos mains, on voit que ce sont vos vraies mains parfois qui jouent, même si vous êtes de temps en temps doublé par Alexandre Tarot. On vous voit diriger aussi. Qu'est-ce que cela a représenté comme travail? Vous aviez déjà des bases musicales, vous saviez déjà jouer du piano, mais qu'est-ce que ce travail vous a apporté? Qu'est-ce que cela a représenté pour vous?
Et c'était vraiment la porte d'entrée dans l'univers de Ravel. Par la seule vérité qu'on connaisse de lui et qui reste de lui, on sait rien de lui. C'est un mystère.
On sait pas rien.
On sait pas grand chose.
Pas grand chose sur l'intimité.
Sur l'intimité. Et en fait, son intimité est dans sa musique. C'est vrai. C'est par la pratique et par les explications aussi qu'ont pu me donner Alexandre Tarot, mon professeur aussi de piano, Frédéric Weissknitter, d'essayer de comprendre pourquoi à ce moment-là il joue ça, pourquoi il compose ça, par exemple le deuxième mouvement du concerto en sol, la flûte qui pourrait exprimer la maman qui vient réconforter l'enfant seul à ce moment-là. C'est des interprétations, mais ces interprétations-là m'ont permis d'essayer de m'approcher de peut-être sa psyché, mais non, moi ça c'est des scènes qui restent, c'est les scènes de direction d'orchestre. Ça a été un moment de plaisir et de stress intense, mais c'est vrai que de diriger la valse face à des musiciens qui n'étaient pas des débutants, ça représente une forme de défi comme même les Américains, mais c'est-à-dire, allez, il faut quand même avoir travaillé, avoir fait son devoir, mais le moment que vous vivez avec un musicien à ce moment-là, vous savez que ça va être évidemment a priori unique dans votre vie. Donc vous en appréciez absolument chaque détail et surtout une sensation physique intense. On m'avait dit que diriger un orchestre, les vibrations qui sont émises par tous les instruments vous transpercent, et c'est vraiment le cas. Ça restera des souvenirs de tournage vraiment inoubliables.
S'il fallait retenir une œuvre outre le Boléro de Ravel, quelle serait celle qui vous parle le plus, qui vous touche le plus, qui représente plus le musicien que vous avez peut-être découvert à l'occasion du travail sur ce film, Anne Fontaine?
Alors moi, il y a deux choses qui sont vraiment totalement différentes. Il y a le concerto, parce que c'est ce début au piano, puis que tout d'un coup, avec la flûte, bascule sur la partie orchestrale. Elle est d'une mélancolie, d'un lyrisme bouleversant. Et puis, il y a une autre musique que je n'ai pas utilisée dans le film, parce qu'elle est très, très particulière, mais dont j'adore la construction, si on peut dire, le kadish. Le kadish au violoncelle. Alors, moi, j'ai fait du violoncelle, et je trouve que c'est magnifique, mais c'est tellement particulier que je ne pouvais pas l'intégrer dans le film. Je n'ai pas pu tout mettre, mais c'est ces deux morceaux-là.
Et pour vous, Raphaël Personnaz?
Moi, c'est sans doute la valse. Parce que quand ça démarre et qu'il y a... cette valse un petit peu qui pourrait être dansée dans les salons, et puis d'un coup, on sent la guerre qui arrive et qui fracasse tout. Donc je trouve que ça représente même très bien la personnalité de Ravel avant et après-guerre, c'est-à-dire l'avant-guerre. Moi, je trouve qu'on sent dans ses compositions quelque chose de plus appliqué, de plus respectueux même des thèmes ou qu'il aborde, et puis d'un coup la guerre est venue tout briser, et ça on le ressent fortement dans la valse.
La fin de la valse de Maurice Ravel dans la version de l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire dirigé par André Cluytens, version qui figure au programme de la bande originale du film Boléro qui sort chez Warner, avec également une nouvelle version du Boléro dont nous avons pu entendre un petit extrait par le Philharmonique de Bruxelles et Dirk Brossé. Nous avons entendu également Alexandre Tarot jouer la pavane pour une infante défunte, ainsi qu'un extrait du mouvement lent du concerto en sol. Boléro, un film d'Anne Fontaine, très beau film d'Anne Fontaine avec Raphaël Personnaz, mais aussi Doria Tillier, Jeanne Balibar, Emmanuel De Vos, Vincent Pérez et même Alexandre Tarot dans un petit rôle. C'est à découvrir dès mercredi soir au cinéma. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Diane Chambriard pour sa réalisation. Demain, nous serons avec Dominique Bluzet, co-directeur du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, et avec l'altiste Cécile Grassi pour parler de musique et de partage. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge sur Radio Classique avec Francis Drezel.